Chapitres 5 à 8 que nous avons fini. Et cette fois-ci, je vous invite à voyager dans l'Ancien Testament, puisque nous allons commencer une série de prédications sur le livre de Ruth. Et ce matin, c'est le premier chapitre que nous allons étudier ensemble. Avant de le lire, et ça vous donnera le temps de trouver le livre de Ruth dans l'Ancien Testament, quelques pages insérées entre des centaines, j'aimerais vous raconter une histoire qui est vraie et qui se passe dans le nord de l'Alsace. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1938-1930. C'est l'histoire d'Yvonne et de Charles. Yvonne est une jeune fille qui, au début de la Deuxième Guerre mondiale, a 18 ans, 18 ou 20 ans. Elle fréquente un jeune homme qui s'appelle Charles. Ils ont des projets de mariage ensemble, mais voilà que la guerre éclate. Et dans les années 40-41, Charles, comme tous les Alsaciens, va être enrôlé par l'armée allemande, la Wehrmacht, et envoyé sur le front russe pour lutter non pas contre les Français, les compatriotes, mais contre les soldats russes envoyés par Staline. Le temps passe, évidemment le projet de mariage est mis en suspens. Charles rentre l'une ou l'autre fois en permission. Lors d'une de ses permissions, dans la joie de la retrouvaille avec Yvonne, ils mettent un enfant en route. Et Yvonne, en tout cas, craint Dieu. Sa famille est une famille de croyantes qui ne lui pardonnera jamais d'avoir conçu un enfant en dehors des liens du mariage. Lors d'une permission qui suit, elles sont de plus en plus rares et de plus en plus espacées, Charles et Yvonne vont se marier, puisque l'enfant est en route. Charles retourne au front. La relation entre Yvonne et Charles est épistolaire. Ils s'écrivent des lettres, mais qui prennent du temps à venir. La guerre bat son plein. Nous arrivons en 1944. Nous arrivons en 1945. De moins en moins de lettres, et à la veille de l'armistice, voilà plusieurs semaines qu'il n'y a plus de lettres qui arrivent du front. Pourquoi ? Aucune nouvelle. L'armistice est signé le 8 mai 1945. Progressivement, des trains de prisonniers libérés par la Russie arrivent en gare de Strasbourg. Et que quand Yvonne apprend que un train arrive, elle prend son enfant, son petit garçon qui est né entre-temps, elle l'habille comme pour un mariage, elle-même se fait toute belle et ensemble ils vont à Strasbourg, sur le quai de la gare, voir si Charles revient. Un premier train arrive, Charles ne descend pas du train. Les trains se succèdent et l'on sait que la libération des prisonniers est longue. Mais il y a l'espoir, l'espérance pour Yvonne de retrouver Charles et de pouvoir pour la première fois lui présenter l'enfant, le garçon. Nous sommes en 1946, toujours pas de retour. Des trains continuent à arriver de la Russie et quand un train arrive, Yvonne va questionner ces prisonniers qui rentrent pour savoir s'ils ont entendu parler d'un Charles. Mais la réponse est toujours non. Personne ne le connaît. On ne sait pas ce qu'il est devenu. La Croix-Rouge internationale est interrogée, puisque c'était sa mission à l'issue de la guerre, de faire l'inventaire de tous ceux qui étaient enrôlés, que ce soit dans l'armée française, chez les Alliés ou chez le front russe. On n'a pas de traces de Charles. On est en 47, 48, toujours pas de nouvelles, 49 non plus. Il arrive encore ici, là, qu'un train arrive, mais dans ces années qui passent, 5 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toujours pas de nouvelles. L'espoir que Charles revienne. Jusqu'un jour de 1951, où la Croix-Rouge va annoncer que le médaillon de Charles a été trouvé dans une fosse commune en Pologne. En fait, il est décédé le 27 avril 1945, quelques jours avant l'armistice. À partir de là, Yvonne sombre dans une dépression profonde. Pour elle, la vie n'a plus de sens. Elle se réfugie dans le travail. Elle s'est éloignée du Seigneur. Il y faudra 30 ans pour revenir et pour se réconcilier avec Dieu, tant l'incompréhension, la douleur de la perte de Charles était forte. En fait, l'histoire de Charles et de Yvonne, dont j'ai changé le nom, c'est l'histoire de ma grand-mère et de mon grand-père que je n'ai pas connu, et donc le petit garçon qui est né. En fait, c'est mon père. Et j'ai connu ma grand-mère avec, marquée par la vie et marquée par une certaine amertume. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Nous arrivons dans notre livre de Ruth. Nous sommes quelque part au XIIe siècle avant Jésus-Christ, au temps du juge, un épisode au sein de l'histoire d'Israël dans le cadre d'une décadence politique, morale et sociale. On peut dire qu'au temps des juges, rien ne va plus en Israël, malgré quelques petits épisodes lumineux. Nous arrivons à situer l'histoire de Ruth, nous arrivons à la dater, parce que Ruth, c'est l'arrière-grand-mère du roi David. Et nous savons que David est né vers 1040 avant Jésus-Christ. Cette histoire se déroule donc quelque part, effectivement, à la fin du XIIe siècle. Et dans l'ordre des livres bibliques de l'Ancien Testament, dans le canon juif, dans le canon massorétique, le livre de Ruth se situe juste après le livre des Proverbes. Et si vous connaissez un peu votre Bible, vous savez que le livre des Proverbes se termine par quel chapitre ? Le chapitre 31, consacré à la femme de valeur. Et Ruth est appelée femme de valeur. La même expression en hébreu. Il y a peut-être probablement un écho dans le positionnement du livre de Ruth par rapport au chapitre 31 du livre des Proverbes. Selon les spécialistes de l'hébreu, que je ne suis pas, le livre de Ruth est un petit bijou littéraire. Il fonctionne sous la forme de quatre tableaux, qui sont d'ailleurs repris par les quatre chapitres que vous avez dans votre Bible. Il y a une introduction, les versets 1 à 5 du premier chapitre. Il y a une conclusion, les versets 13 à 16 du quatrième chapitre. Et les deux se répondent. En fait, chacun contient exactement 71 mots. 71 mots dans l'introduction, 71 mots dans la conclusion. C'est la quintessence de l'art, de la littérature hébraïque. L'introduction décrit Noémie, qui se trouve dans une situation de détresse, dans une situation désespérée. Et la conclusion va la présenter bénie, heureuse et pleine d'espérance. En fait, le premier chapitre va mettre la lumière sur l'histoire de Noémie et moins sur celle de Ruth. L'issue est diamétralement opposée à la situation initiale. Il y a encore d'autres éléments qui composent ce joyau littéraire. Par exemple, le nom des personnes qu'on va découvrir au fil de la lecture ont une fonction essentielle. La signification de leur nom est en rapport avec le récit. Enfin, il y a trois petites pépites littéraires qui garnissent ce livre. Alors, si vous êtes en première et que vous allez passer votre bac français, c'est une petite révision. Il y a des assonances. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'est une assonance dans le terme ? Je vais vous l'expliquer. Moi non plus, je ne le savais pas, j'ai demandé mon épouse. Une assonance, c'est une répétition d'une même voyelle à plusieurs reprises dans une phrase. Et il y a aussi des allitérations. Qu'est-ce une allitération ? Une répétition de consonnes. Et il y a des jeux de mots. Alors évidemment, ces procédés, cette richesse littéraire disparaît dans la traduction en français. C'est un peu comme si nous avions, nous, ce matin, une photo en noir et blanc, alors que l'original est en couleur. Mais c'est la même photo. Et nous pouvons nous avancer dans le texte. Et je termine par une dernière remarque. Pour résumer l'ensemble du contenu de ce livre, nous pourrions dire que ce livre aborde plusieurs thèmes, dont celui d'une solidarité généreuse entre une belle-fille, Ruth, et sa belle-mère. Soulignez l'exploit. Une solidarité généreuse entre une belle-fille et sa belle-mère. Une belle-fille étrangère, de surcroît. Et cette histoire aborde aussi le sujet de la piété. Comment des gens ordinaires ont vécu des choses extraordinaires. Ce texte va aussi nous dire quelque chose de la souveraineté de Dieu et dans l'action de Dieu dans toutes les parties de notre vie et de notre existence. Il y a dans ce texte une théologie de la providence divine. Dieu s'occupe des plus humbles, il dirige leur vie, même si son action immédiate n'est pas toujours perceptible. Et maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, en tout cas je l'espère, je vous invite à lire le premier chapitre de cette histoire. Rien à voir avec l'épître aux Romains, vous allez voir, c'est un peu plus facile. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses deux fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie, et ses deux fils, Malon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Judée. Ils parvinrent en Moab dans la campagne s'y établir. Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour. Et Noémie resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses deux belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles-filles, « Allez, rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. » Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglants et à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Et Noémie leur répondit « Mais retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi ? Je ne peux plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgée pour vous remarier. Et même si je disais « J'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai un mari cette nuit. » Et j'aurai des fils, attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier ? Bien sûr que non, mes filles. Je suis bien plus affligée que vous. Car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les deux jeunes filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, puis Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde ta belle-sœur, est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne. Retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, N'insiste pas pour que je te quitte et je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution, à la suivre, Noémie cessa d'insister. Et elles s'en allèrent toutes les deux ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien Noémie ? » demandèrent les femmes. Elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse. Appelez-moi Mara, l'affligée. Car le Tout-Puissant, Le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction ? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson des orges. Noémie est mariée à Élimélec. D'entrée de jeu, le sens de leur nom vont planter le décor de la vie. Noémie est un nom qui signifie, nous l'avons vu à la fin du chapitre, l'heureuse. Mais ce mot recouvre des réalités un peu plus larges. Il signifie aussi ma charmante, ma gracieuse. Qu'est-ce que nous pouvons associer à un tel prénom ? Manifestement, une personnalité qui se situe du côté du bonheur, de la beauté et de la joie de vivre. C'est du moins ce que semblent susciter ces expressions qui dépeignent sa personnalité. Son mari, lui, s'appelle Élimélec, ou Élimélec, mon Dieu et roi. Rien que ces deux noms nous aident à comprendre qui sont Noémie et Élimélec. Un couple qui craint et aime Dieu. Leurs vies leur sont soumises, Dieu est mon roi, et qui vivent heureux. Ensemble, ils habitent à Bethléem. Que signifie Bethléem ? La maison du pain. Leur besoin fondamental de nourriture semble être couvert. Et leur mariage est béni. Ils ont deux garçons, mais seulement deux garçons. Ce qui n'est pas la norme à cette époque-là de l'histoire d'Israël. Mais peut-être que la signification de ces prénoms, des enfants, Malon et Kilion, nous en font comprendre la raison. Malon signifie celui qui est malade, et Kilion, le faible, le fragile. Leur santé semble être fragile. À cette époque-là, le prénom n'est pas toujours donné à la naissance, comme pour nous aujourd'hui. La première chose que la sage-femme demande assez rapidement après l'accouchement. Mais à l'époque, il s'agissait d'abord de voir si l'enfant allait survivre plusieurs mois, voire quelques années, avant de lui donner un prénom. Il était courant que c'est seulement au bout de la troisième année qu'un prénom était donné, même si dans le récit, on annonce, dans les récits bibliques, on annonce un tel est né et tel nom lui fut donné. Malgré la famine qui va sévir en Judée et les contraindre à l'exil, Noémie dit au verset 21 de ce chapitre que quand elle est partie de Bethléem, comment était-elle malgré la famine ? Elle dit qu'elle était comblée. Et il me semble qu'il y a là un écho avec ce que nous pouvons vivre ou même vivre dans notre expérience humaine. Le proverbe, chapitre 15, verset 17, le dit de cette manière « Mieux vaut avoir un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. » Quand on est heureux en couple, en ménage, on affronte... Cela ne met pas... Les épreuves de la vie ne mettent pas fondamentalement en cause le bonheur d'être ensemble. Noémie nous est donc présentée comme une femme heureuse en couple, heureuse en famille, malgré la famine. On poursuit le récit, ils s'installent dans le pays de Moab, à l'est du Jourdain, a priori pour une longue période, puisque c'est là que leurs deux fils vont épouser chacune une Moabite. Alors la loi mosaïque n'interdisait pas formellement le mariage entre une Israélite et une Moabite. Dans le chapitre 7 du livre de Deutéronome, nous avons la liste de toutes les tribus avec lesquelles les mariages entre Israélites et les personnes de cette tribu étaient interdits, Moab n'y figure pas. Cependant, les Moabites étaient régulièrement en guerre contre les Israélites, et ils n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée d'Israël, et c'est certainement pour cela que de telles unions n'avaient pas lieu. Donc il est assez exceptionnel de constater que Noémie avec son mari vont demander à leurs fils ou à leurs enfants d'épouser, ou les enfants ont épousé des Moabites. En tout cas, après une dizaine d'années du côté de Moab, il y a deux mariages, et nous apprenons qu'Émilémélec meurt, Mahlon aussi, et Kilion également. Et Noémie se retrouve à la fin de l'introduction, cinq versets d'une très grande sobriété qui nous raconte le drame. Noémie se retrouve en terre étrangère, loin de ce village d'origine, seule avec ses deux belles-filles. Le texte ne dit pas grand-chose de l'épreuve qui frappe Noémie, mais il dit l'essentiel. Et arrêtons-nous juste un instant sur la situation de désespérance et de désespoir dans laquelle Noémie se retrouve. Est-ce que vous avez déjà perdu un proche un jour ? Un jour ou l'autre, nous faisons l'expérience de la perte d'un proche par la mort. Il m'arrive parfois de penser ce que deviendrait ma vie si je devais brutalement perdre mon épouse. J'avoue que j'ai du mal à imaginer comment survivre à une telle épreuve. Et si en plus je devais perdre mes quatre enfants, mais comment survivre à une telle peine ? Comment continuer d'avancer dans la vie quand tout ce qui faisait votre vie, soudain, disparaît ? C'est le sol qui se dérobe sous vos pieds. Et Noémie le dit, « Je suis parti comblé et l'Éternel m'a fait revenir les mains vides. » Vides. À la peine de Noémie s'ajoutent deux problèmes supplémentaires. À cause de ses décès, elle va être exposée à la précarité sociale et matérielle. À cette époque, surtout pour une femme veuve n'est plus rien si elle a, quand elle a perdu son mari et ses fils, qui normalement auraient en charge d'assurer tout ce qui est nécessaire à vivre. À l'époque, pas de maison de retraite, pas d'allocation vieillesse, pas de prise en charge sociale. C'est les enfants qui prennent en charge les parents jusqu'à la mort dans la maisonnée familiale. C'était le modèle social de l'époque. Et donc, Noémie se retrouve privée de toutes ses ressources, de tout soutien pour ses vieux jours, dans un pays qui, en plus, n'est pas le sien. Elle vit en exil. Le deuxième problème qui s'ajoute à la situation de Noémie, c'est l'impossibilité d'assurer à ses deux belles-filles une descendance. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important ? En fait, si Mahlon et Kilion avaient eu des frères, donc si Noémie avait eu d'autres enfants, ces derniers auraient eu la charge d'épouser Ruth et Orpa selon la loi du Lévirat pour assurer une descendance, donc donner une descendance à Ruth et Orpa, de telle manière à ce que les enfants fassent quoi ? Prennent en charge leur mère et leur grand-père sur le plan matériel. C'est la sécurité sociale de l'époque. Et il est fort probable que, dans ce cas-là, Noémie aurait trouvé refuge chez l'un de ses petits-enfants. Noémie est trop avancée en âge. Trop avancée en âge pour offrir une telle descendance. Elle-même aurait pu épouser le frère d'Élimélec, d'ailleurs. Mais le texte est complètement silencieux à cet endroit. La loi du Lévirat n'a pas grand-chose de romantique, n'est-ce pas ? C'est un cadre légal pour qu'un géniteur, en fait le beau-frère, puisse garantir une descendance. Un nom, et je le répète, un don, donc le nom du défunt va survivre, va continuer d'exister, il y aura une descendance, et en même temps une sécurité sociale à la veuve. Et le Lévirat permettait cette union sexuelle pour qu'elle ne soit pas considérée comme un adultère. Dans une société qui, en plus, à l'époque, est polygame. La loi du Lévirat, un géniteur, le beau-frère, qui assure une descendance. Il semble donc que dans la culture de l'époque, le remariage d'une veuve ne soit pas aussi facile que pour le veuf. Les femmes étaient socialement beaucoup plus vulnérables que les hommes. Donc, à la peine d'avoir perdu son mari et ses enfants, s'ajoute la précarité et l'exclusion sociale. Alors, que fait-elle, Noémie ? Elle ne peut pas assurer une descendance pour Orpa. Noémie, donc, les invite à retourner chacune dans la famille de sa mère. Elle ne peut pas, en plus, assumer le soutien pour ses belles filles. Et elle va leur dire, retournez dans votre famille, retournez vers vos dieux, versets 15 et 16. Mais Ruth, qui signifie l'ami, le réconfort, décide de ne pas se séparer de Noémie. Elle le dit partout, tu iras, j'irai, etc. Et en restant auprès de Noémie, Ruth choisit consciemment le peuple d'Israël et elle choisit consciemment son Dieu, à savoir l'Éternel. Elle fait le choix de suivre Noémie, de elle-même devenir maintenant une étrangère en exil. Mais pourquoi ? Pour être un secours pour sa belle-mère. Et la Bible d'étude du semeur fait remarquer deux choses à cet endroit. C'est que les versets 16 et 17 soulignent l'attachement, les émotions qui liaient Ruth à ses deux belles-filles. Elles pleurent ensemble, elles sont émues. « Mes filles, dit-elle, Noémie, à ses deux belles-filles. » Et la deuxième chose, que cet attachement de Ruth à Noémie est complètement désintéressé parce que Noémie n'avait rien à lui proposer, si ce n'est de partager sa pauvreté avec elle. Ruth, la Moabite, jure fidélité à Noémie au nom de l'Éternel. Elle se positionne comme l'amie aux côtés de Noémie. Elle est déterminée à ne pas laisser tomber sa belle-mère et à payer le prix nécessaire pour vivre l'épreuve de vie avec Noémie. Et ensemble, elle retourne à Bethléem. Et quand ils arrivent, les années ont passé, mais on se souvient de Noémie. Regardez l'accueil qui est fait. Est-ce bien Noémie ? Quelle surprise ! Depuis ces longues années. Le temps a certainement fait aussi son effet, puisque la reconnaissance ne semble pas être immédiate. Et que fait-on lorsqu'on se retrouve après 10 ans de séparation ? Quelle est la première question que l'on pose ? Alors, raconte-moi ! C'est souvent ce que Annick me demande lorsque je rentre de déplacement après plusieurs jours d'absence. Alors, c'était comment ? Que répond Noémie ? Ne m'appelez plus Noémie. Appelez-moi Mara. Amère comme l'eau de source, les sources de Mara, impropres à la consommation dans l'Exode, parce que amère, l'affligé. Alors, ces 10 ans, ne m'appelez plus Noémie, mais Mara. Je suis parti d'ici comblé, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides. Noémie est devenue Mara. L'heureuse, le sens de son prénom, est devenue l'amère, l'affligée. Une vie brisée, une désespérance. Ne m'appelez plus Noémie, mais Mara, il y avait un avant et il y a maintenant un après. Avant, je m'appelais Noémie, avant, j'étais l'heureuse, avant, j'étais la gracieuse, la charmante, mais ça, c'était la vie d'avant. Maintenant, appelez-moi l'affligé, l'amère, parce que c'est ça ma vie. L'épreuve l'a complètement retournée, l'a complètement abîmée et méprisée. Et dans ces paroles de Noémie, je perçois quelque chose du genre « Je ne serai plus jamais la Noémie que vous avez connue. J'ai vécu, je ne vis plus. Je n'attends plus rien de la vie. Je voudrais ne plus être, je m'appelle Mara. » Pleine d'amertume, d'affliction, de souffrance. Dans la vie, il y a différents types d'épreuves. J'en vois au moins 2. Il y a l'épreuve tunnel. Vous savez, c'est celle du passage difficile dans la vie. Une épreuve ponctuelle qui s'impose à vous, mais il y a l'espoir qu'à un moment ou un autre, on va s'en sortir. D'où le tunnel, je rentre, mais je sais qu'il y a une sortie. C'est plus une question de temps et de persévérance. Une maladie que l'on sait soigner, qui peut secouer lourdement, Ou alors perdre un parent âgé, on a été préparé au décès, ça reste une épreuve, mais on sait que c'est un passage de la vie, un passage de la vie. Rater un examen, c'est une épreuve. Chercher son chemin dans sa vie, se tromper, ça peut être une épreuve passagère. Connaître une déception amoureuse, ça peut être un tunnel passager, une entrée, mais il y a une sortie. Et puis il y a un autre type d'erreur qui est celui de l'impasse. Celle qui nous met en face d'un mur infranchissable. Impossible de faire marche arrière parce que dans la vie, on ne peut pas retourner dans le passé. Vivre avec une maladie incurable, quand le diagnostic tombe et qu'il vous dit « pas de soins, pas de traitement, il faut vivre avec ». Le tunnel se transforme en mur infranchissable. Un ami proche, qui est aussi un collaborateur, 10 ans, 15 ans de moins que moi, jeune papa, père de 3 filles, la dernière vient d'être diagnostiquée avec une maladie génétique rare qui fait d'elle une handicapée lourde. Une situation qui est un mur, ce n'est plus un tunnel. Ces impasses, on ne peut pas revenir en arrière. Et cela se dresse en face de nous. Toutes ces situations qui sont irréversibles, personne ne fera revenir Élimélec et ses fils. Il y a un avant et un après. Ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara. Et lorsque l'épreuve frappe à la porte de la vie, qu'elle soit tunnel ou impasse, arrive avec elle le cortège des questions qui font mal. Pourquoi Dieu permet-il cela ? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter cela ? Pourquoi est-ce que Dieu me punit ? Mais si Dieu est bon, pourquoi l'épreuve ? Et si vous ne vous posez pas ces questions, les autres vont les poser à votre place. Qui est ce Dieu dans lequel tu crois ? Je croyais que c'était un Dieu d'amour, je croyais que c'était un père. Pourquoi le mal ? Pourquoi l'épreuve ? La souffrance ? Vous placez votre confiance en Dieu et l'épreuve qui vous frappe vous fait penser que Dieu vous a trompé. Alors comment continuer de croire ? L'épreuve nous amène à mettre Dieu en accusation. Et regardez ce que dit Noémie. Verset 13. L'Éternel est intervenu. Tout l'inverse de ce qu'on a chanté ce matin. L'Éternel est intervenu contre moi. Le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Verset 21. Et je suis en admiration devant la franchise de Noémie qui ne triche pas avec ses émotions, avec ses pensées. Elle est face à une incompréhension, une équation insoluble. Ces questions remettent Dieu et la bonté de Dieu en cause. Remarquez que le hasard n'existe pas dans la vie de Noémie. Pour elle, l'Éternel est souverain sur toute chose. Ces affirmations démontrent clairement que sa compréhension de la souveraineté de Dieu dépasse la simple connaissance des choses à venir. Nous pourrions dire, d'une certaine manière, pour ceux qui font un peu de théologie, que Noémie est calviniste. Elle confesse aussi bien cette souveraineté pour les bonnes choses. Quand je suis parti, au verset 6, lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné de quoi se nourrir, elle reconnaît la main de Dieu dans les bonnes choses, mais aussi dans les épreuves qu'elle a subies. Et la manière dont elle formule cette souveraineté de Dieu sur l'épreuve relève deux choses. Toute son amertume à l'égard de Dieu, Dieu mise en accusation, et laisse entendre que Dieu serait en réalité l'auteur du mal dans sa vie. Noémie part son point de départ, c'est une juste compréhension de la souveraineté de Dieu. Puis cette compréhension se déforme sous l'effet de l'épreuve. Dieu est l'auteur du mal qui me frappe. Et ça, c'est le propre de l'épreuve. quand la vie nous secoue, quand nous passons dans le tourbillon de la machine à laver, que nous ne comprenons plus rien dans ce qui se passe et de ce qui s'arrive, l'épreuve porte en elle cette capacité à déformer la nature de Dieu, à ne plus le voir tel qu'il est, à ne plus rien espérer de sa part, parce que notre espérance se limite à ce que notre désespérance nous autorise. C'est-à-dire pas grand-chose. Nous pouvons avoir plusieurs manières de réagir lorsque, dans l'épreuve, nous arrivons à ces questions que pose Noémie. J'en vois quatre, il y en a peut-être d'autres. La première, c'est de prendre ses distances avec Dieu. Ça a été le cas de ma grand-mère. L'amertume l'a éloignée du Seigneur parce qu'elle ne pouvait pas comprendre où était la bonté de ce Dieu alors qu'elle attendait pendant 7 ans le retour de son mari. Elle a connu une crise spirituelle profonde. Elle s'est remariée avec un homme qui ne connaissait pas le Seigneur et c'est plusieurs années après ce mariage que petit à petit, elle s'est rapprochée du Seigneur et Dieu est fidèle. Je sais où est ma grand-mère aujourd'hui, je sais que je la reverrai un jour. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. La deuxième réaction, donc la première, ça peut être l'éloignement. Le deuxième positionnement, c'est l'impossibilité de remettre en cause la bonté de Dieu. C'est un peu cette manière dont on a parlé la semaine dernière, quand on interprète toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On en vient donc à dire que cette épreuve est bonne pour moi, parce que Dieu ne veut-il pas le meilleur que pour moi ? Alors si nous sommes dans ce raisonnement-là et que nous l'appliquons à la situation de Noémie, cela signifie que le meilleur pour elle, c'est la perte de son mari et de ses 2 enfants. Mais là, on marche sur la tête. Mais cette posture est parfois aussi le résultat pour l'impossibilité d'articuler la bonté de Dieu et le malheur qui peut frapper. Troisième réaction par rapport à l'épreuve, ça peut être l'amertume comme Noémie, je crois en Dieu, je continuais de croire parce que l'expérience dans ma vie jusqu'ici m'a démontré que Dieu est Dieu et je ne peux pas le renier, mais voilà, je ne sais plus quoi attendre de la vie et je suis dans le questionnement, dans l'amertume. Je ne supporte même plus le bonheur des autres. Appelez-moi Mara, la mère, l'affligée. La quatrième, c'est oser croire que face au mur qui se dresse en moi, il y a un espoir, parce que derrière le mur se trouve une vie. Et c'est en fait le sens du livre de Ruth. J'aimerais juste ici marquer un petit arrêt, nous sommes pas loin de la fin. Il nous faut rappeler que lorsque nous approchons la question du mal en lien avec l'épreuve, il nous faut rappeler quelques fondamentaux bibliques. Dieu est bon, fondamentalement bon dans sa nature, le mal lui est étranger, il n'est pas l'auteur du mal lorsque nous parcourons la Bible du début jusqu'à la fin. Dans ce que l'Écriture nous dit de mal, du mal dans la Bible, donc ce que la Bible dit du mal, quant à son origine, la Bible est silencieuse. Nous parlons, en tant que théologiens, du mystère opaque du mal. Nous ne connaissons pas son origine, nous connaissons ses effets dans le monde angélique. Satan, qui était un être bon, parfait, a été contaminé par le mal. Nous ne savons pas comment. Nous avons quelques petits aspects, mais nous savons comment ce mal est entré dans notre monde. Et comment nous sommes entrés dans une humanité pécheresse, qui est l'humanité dans laquelle nous vivons. Et le mal, à partir de Genèse 3, se diffuse dans toutes les strates de l'existence. Rien n'échappe au péché. Nous l'avons vu dans Romains. Même la nature est impactée par le mal. Tout ce qui fait notre vie a été contaminé, impacté. La terre, notre corps, nos pensées, nos relations, notre vie sociale. Nous ne vivons plus dans un monde parfait. Et donc, l'épreuve au fil de la vie nous frappe, que nous soyons croyants ou pas. Et l'épreuve peut être le résultat de nos mauvais choix comme une épreuve que nous subissons. Mais Dieu n'en est pas l'auteur. Noémie est dans cette logique. C'est Dieu qui m'a affligé. La promesse d'un monde renouvelé où le mal ne sera définitivement plus est à venir, et c'est ce que nous attendons. Mais dans l'attente nous vivons dans notre humanité les effets du mal d'une manière générale. Et Dieu, dans sa souveraineté, compose aussi le fil de notre vie avec l'épreuve, avec le mal, sans qu'il n'en soit l'auteur. J'aime à cet endroit l'illustration du jeu de Lego. Vous voyez ce que c'est des Lego ? Ces petites pièces avec lesquelles on peut construire des voitures, des objets. Nos enfants avaient pour habitude de construire un village entier. 4 enfants, chacun avait sa plaque. Ils avaient des pièces de Lego, mais à profusion, et ils construisaient ensemble une ville, ils se répartissaient les métiers, et ils jouaient ensemble à la vie avec les Lego. Les Lego, c'est très chouette quand les pièces s'assemblent les unes avec les autres. Et nous pourrions dire que ce jeu-là de l'ego parfait, c'est le monde créé par Dieu, c'est Genèse 1 et 2. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Les pièces s'emboîtent les unes dans les autres d'une manière merveilleuse. Et puis arrive ce drame, le mal arrive dans le monde de l'ego. Et il va déformer certaines pièces, pas toutes, parce que Dieu est bon dans sa grâce commune, il permet encore que le bien demeure, et c'est un effet de Dieu. Dieu ne s'est pas retiré de ce monde, sinon la vie serait impossible. Et voilà que nous avons dans ce jeu de l'ego des pièces qui s'articulent mal, qui sont laides. Mais elles sont là. Elles sont présentes. Nous ne pouvons pas accuser Dieu de les avoir créées. Il est fondamentalement bon, mais elles sont les résultats du mal. Et là, les choses ne s'articulent plus comme avant. Les pièces ne s'assemblent plus comme dans les temps passés. Le jeu est déformé. Et nous attendons la venue d'un monde parfait. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Quel est le regard sur sa vie ? D'un mal, Dieu en a fait un bien. Seul Dieu peut faire ça. D'un mal, Dieu sait en faire un bien. Et là, nous commençons à donner un coup de pioche à l'épreuve impasse. Ce mur qui est dressé devant nous. Bien comprendre qui est Dieu et ce qu'est le mal est fondamental pour faire face à l'épreuve, au risque de s'éloigner du Seigneur ou de sombrer dans des fausses croyances. Alors que conclure ? Nous avons compris la détresse de Noémie, nous avons compris son amertume, nous avons compris qu'elle est dans une épreuve de type impasse, qu'elle est là, les mains vides, et que se pose la question comment sortir de l'épreuve et envisager de reconstruire sa vie lorsqu'on s'appelle Mara. Comment se relever lorsqu'on a les mains vides ? La fin de Ruth nous dit que les femmes de Bethléem ont dit que Noémie était une femme bénie. Mais il nous faut savoir comment on est arrivé à ces choses-là. Avant de sauter à la conclusion, nous allons donc parcourir les chapitres 2, 3 et 4 et voir comment Dieu l'a restaurée. Et la lueur, la petite lumière qui commence à s'allumer, elle est encore dans notre chapitre. Vous l'avez peut-être remarqué. Dernier verset. Que dit ce verset ? Regardez. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Dans quelles conditions Noémie a-t-elle quitté Bethléem ? Famine. Plus de moisson. Et en fait, nous allons constater que cette histoire commence par une famine qui amène à un désespoir complet pour Noémie. Et le début de l'histoire, le début de la nouvelle vie, ce mur qui va commencer à s'effriter, c'était le début de la moisson de l'orge. Et regardez, un événement dont seul Dieu est souverain va conduire des circonstances pour amener un renouveau dans la vie de Ruth. De Noémie, pardon. Il est le souverain. C'est lui qui conduit les circonstances. Et parce qu'il est maître des circonstances, lui-même met en place ce qui est nécessaire pour se reconstruire. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu, à partir de nos vies brisées qui sont en 1000 morceaux, est le seul à pouvoir reconstruire ce qui en nous est cassé et brisé. Et vous allez voir que Noémie ne va pas longtemps s'appeler Mara. Je vous invite à chanter un dernier chant qui s'appelle « Béni soit ton nom ». Ce chant a été écrit par Matt Redman alors qu'il venait de perdre son enfant. C'est dans ces circonstances que ce chant a été composé. Et je vous invite de le chanter comme expression de confiance à Dieu, que l'on soit dans une épreuve tunnel, dans une épreuve impasse. Si nous sommes ni dans l'une ni dans l'autre, nous pouvons chanter parce que nous disons notre confiance à Dieu et nous pouvons peut-être le remercier pour dans les temps passés où nous étions dans des impasses, nous pouvons dire aujourd'hui le Seigneur m'a secouru. Alors je vous invite à chanter ce chant de tout votre cœur et ça sera là la fin de notre culte.